نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on avait expliqué que l'ibada, c'est-à-dire après l'avoir défini, on avait expliqué que l'ibada, l'adoration, elle repose sur trois piliers fondamentaux qui sont l'amour d'Allah, l'espoir en Allah et la crainte en Allah. Ici, dans le point suivant, ils disent « l'ibadatu la tuqbalu illa bi shartayn ». Donc, une précision à propos de l'ibada, c'est qu'elle n'est acceptée qu'avec que deux conditions. La première, c'est l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité, et que cette adoration, elle soit sincèrement vouée pour Allah Azza wa Jal. Et les preuves à ça, elles sont nombreuses, notamment les versets qui disent « wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ». Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Ou alors les versets qui disent ala lillahi ad-dinul khalis, certes à Allah est le culte exclusif. Wa qala ta'ala qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini. Donc à chaque fois vous entendez ad-dinul khalis ou alors mukhlishan, tout ça c'est de la même racine que l'ikhlas, c'est-à-dire le fait de purifier son culte et de le rendre exclusivement pour Allah. Comme ici qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini. Dis c'est Allah que j'adore. Mukhlisan lahu dini. On pourrait traduire en lui purifiant mon culte ou en lui vouant exclusivement mon culte. Et regardez dans ce verset comment Allah dit. Dans ces versets, il y a une façon linguistique qui prouve le tawhid. Puisque dans le verset précédent, il dit ala lillahi ad-dinul khalis. Donc s'il avait dit ala ad-dinul khalis lillah, déjà ça aurait suffi. Puisqu'il a dit, certes, la religion pure est à Allah. Mais là, encore mieux, il a dit, lillahi ad-dinul khalis. Donc, il a mis le complément, entre guillemets, avant de dire la religion. Il a dit, à Allah et la religion pure. Et non pas, la religion pure est à Allah. Le fait qu'il dise à Allah, d'abord, en premier, ça implique que ce soit qu'à Allah. Comme dans la Fatiha, quand on dit, iyyaka na'budu. C'est toi que nous adorons, ça implique que ça n'est que toi. Alors que si on avait dit « nous t'adorons », ça n'aurait pas accepté qu'on adore autre que lui, au niveau linguistique. Et pareil ici, « قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ » Dis « c'est Allah que j'adore ». C'est pas simplement « dis j'adore Allah », mais dis « c'est Allah que j'adore ». La même chose. Le complément, s'il est en avant, avant le verbe, ça implique l'exclusivité. C'est-à-dire, dis, c'est comme s'il disait « dis c'est Allah que j'adore et personne d'autre ». En français, c'est la même chose. Donc ça c'est la première condition. On peut aussi la tirer du hadith qui dit innamal a'malu binniyat. Les actes ne dépendent que des intentions. Et la deuxième c'est al-mutaba'a lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième condition pour qu'un acte soit accepté, c'est le suivi du messager dans cet acte. Comme donc il y a les preuves à ça, sont notamment dans le Coran. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce dont il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc ça, c'est avant tout dans la religion. Et l'autre verset qui dit « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ». Ici, Allah jure « فَلَا وَرَبِّكَ ». C'est-à-dire, il jure par ton Dieu. Ils n'auront pas la foi. « لَا يُؤْمِنُونَ » tu traduis ici par « ils n'auront pas la foi complète jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans les disputes qu'il y a entre eux, et qu'ensuite ils ne trouvent aucune gêne en eux-mêmes pour ce que tu auras décidé, et qu'il s'y soumette complètement. Donc là, il a conditionné la foi complète par trois choses. Le fait de le prendre pour juge dans nos affaires, et que nos âmes acceptent avec sérénité son jugement, et de s'y soumettre, c'est-à-dire d'appliquer ensuite son jugement. On aurait pu aussi citer le verset qui dit Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? Ce qui prouve que légiférer dans la religion, quand Allah a dit ont-ils des associés, c'est-à-dire des associés à Allah, ont-ils mis avec Allah des associés qui leur ont légiféré ce qu'Allah n'a pas permis? Cela montre que le fait de légiférer, que ce soit dans la religion ou dans les affaires mondaines, ça rentre dans ce fait ar-rububiyyah. C'est-à-dire, c'est une conséquence de ar-rububiyyah. Et donc, c'est une spécificité d'Allah. Donc, celui qui viendrait à innover dans la religion, son acte, il se traduit par le fait qu'il aurait légiféré dans la religion. Et donc, il se serait attribué, ou il se serait associé à Allah dans ce droit, qui est le fait de légiférer. Vous avez compris ça? Puisqu'il dit, ont-ils des associés? Donc toute personne qui innove dans la religion, son innovation a une part de shirk, puisque elle s'est quelque part mis à la place d'Allah en légiférant dans la religion. Et le hadith de Aïcha que vous connaissez, qui est de Sahih, qui dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rat. Celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, son acte sera rejeté. Après, ici, il cite une parole de Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui disait, à propos de la parole d'Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est-à-dire, Allah vous a créé pour qu'il vous éprouve, afin de voir lequel d'entre vous fera la meilleure action. Ahsanu amala. Al-Fudayl ibn Iyad a dit, akhlasuhu wa aswabuhu. C'est-à-dire, l'action la plus sincère et la plus juste. Il a dit, on lui a dit, c'est quoi akhlasuhu, c'est-à-dire la plus pure, et c'est quoi aswabuhu, c'est-à-dire la plus juste. Qala inna al-amal idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban wal khalis ma kana lillah was sawab ma kana ala sunnah. Il a répondu, l'action lorsqu'elle est pure, khalis, mais qu'elle n'est pas juste, sawab, elle n'est pas acceptée. Et si elle est juste mais elle n'est pas pure, elle n'est pas non plus acceptée, jusqu'à ce qu'elle soit pure et juste. Et il dit la pure, l'action pure, c'est celle qui est faite pour Allah, et l'action juste, c'est celle qui est conforme à la sunna. Et aussi, parmi les versets qui ont regroupé ces deux conditions, le verset dans Surat Al-Kahf qui dit « Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid » dit, je ne suis qu'un être humain comme vous, il m'est révélé que votre divinité est une divinité unique. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une action صَالِحًا, c'est-à-dire une bonne action, une action vertueuse, ça c'est la première condition, et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Donc les deux conditions ici, elles sont regroupées, puisque l'action, pour qu'elle soit bonne, il faut forcément qu'elle soit conforme à la religion. Et il faut aussi qu'il n'associe rien dans l'adoration d'Allah. Donc c'est-à-dire, ni il adore un dieu en dehors d'Allah, ni non plus, dans son adoration pour Allah, il cherche autre chose que la récompense d'Allah, comme l'ostentation, la réputation, ou alors dunya, c'est-à-dire les bienfaits d'ici-bas. Dans le chapitre suivant, ils ont cité différentes catégories de ibadah. Donc, après avoir connu ce que c'est que l'ibadah comme principe et sa définition et ses conditions, il faut savoir maintenant quelles sont les ibadat qu'Allah nous a ordonnées. Donc de façon générale, l'ibadat, c'est tout ce qu'Allah a déclaré qu'il aimait ou qu'il agrée. Donc si par exemple le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait telle action rentre au paradis, eh bien, on sait que forcément c'est une action qu'Allah aime et agrée, si son auteur rentre au paradis. Donc c'est une adoration. Ou si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit faites telle chose, sachant qu'il est l'envoyé d'Allah, il ne nous ordonne que ce qu'Allah aime et agrée. Donc aussi les ibadat, on peut voir un ordre, ben c'est une adoration. Après, avant de rentrer dans Anwa al-Ibada, quand on explique ça, quelqu'un il peut parfois ne pas comprendre, parce qu'on voit des fois des actes qui ont l'air des actes de la vie mondaine, que des musulmans comme des non-musulmans font, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré une récompense à celui qui le fait. Par exemple, quand il a dit, l'exemple qui me vient à l'esprit, quand il a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, إِنَّكَ لَمْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُوا فِي شِمْرَأَتِكَ. Tu ne feras pas une dépense par laquelle tu recherches la face d'Allah sans être récompensé pour elle, même ce par quoi tu nourris ta femme. Alors que quelqu'un il va nous dire, bah, le mécréant aussi il nourrit sa femme. Est-ce que ça veut dire que le mécréant il fait une adoration? C'est-à-dire la salat et la zakat, ça on comprend, puisque les non-musulmans ils la font pas. Mais des fois vous trouverez, surtout dans Bab al-Akhlaq, des choses qu'Allah aime et agrée, mais pourtant tout le monde le fait, comme obéir à ses parents. Non-musulmans et musulmans le font. Comme nourrir ses enfants, comme éduquer ses enfants, etc. Eh bien, ces actions sont des actions mondaines, c'est-à-dire sont des adats. Mais ce qui les a rendus des obéissances à Allah, c'est al-niyya qu'il y a dedans. Donc c'est pour ça, dans le hadith que je viens de vous citer, il a bien dit, tu ne feras pas une dépense, mais il n'a pas juste dit, chaque dépense que tu fais, tu seras récompensé pour elle. Il a conditionné. Il a dit, tu ne feras pas une dépense, par laquelle tu recherches la face d'Allah. Donc c'est ça la condition. Ça, vous le retrouvez aussi dans un verset qui dit, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. C'est-à-dire le verset de la sourate An-Nisa dit, il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs najwa, c'est-à-dire leurs paroles entre la nuit, leurs dialogues, leurs discussions. Donc Allah ici renie le fait que, ou plutôt atteste que la plupart des discussions des gens, il n'y a pas de bien dedans. Mais il dit, illa, sauf celui qui ordonne une aumône, ou qui ordonne un bien, ou qui ordonne une réconciliation entre les gens. Et ça, pareil, musulmans ou non-musulmans, ils peuvent le faire. Un non-musulman, il peut très bien être avec ses amis et leur conseiller du bien. Mais Allah, il a montré dans ce verset que le seul qui aura une récompense pour ses actions, malgré qu'elles soient bonnes, c'est celui qui le fait avec Enniya, puisqu'il a dit, et celui qui le fait, c'est-à-dire ordonner une aumône, ou un bien, ou une réconciliation entre les gens, et celui qui le fait en recherchant la satisfaction d'Allah, celui-là, nous lui donnerons une grande récompense. Parce qu'ici, les ibadats dont on va parler, c'est des ibadats clairs. C'est du culte clair, comme la prière, les sacrifices, le dua, etc. Mais parfois, vous pourrez, quand vous allez lire, par exemple, Riyad Salihin, vous allez dire, ben, on dirait que ça rentre pas dans ce qu'il nous a dit dans le cours, dans la définition de l'ibada, alors que ça rentre complètement. Mais il faut comprendre que l'ibada, ça peut être un acte de la vie mondaine que tu fais avec une intention pour Allah. Et donc tu le transformes. Par ton intention, tu le transformes en ibada. Donc regardez encore une fois dans le verset, Allah dit que la plupart des gens, quand ils parlent, il n'y a pas de bien dans leur discussion, sauf ceux qui ordonnent une aumône, un bien, une réconciliation entre les gens. Donc Allah ici, il a bien attesté que ces trois choses sont un bien. Mais malgré ça, c'est pas toute personne qui dit ce bien-là qui est récompensée. La seule qui est récompensée, c'est celui qui le dit en recherchant la récompense d'Allah. Donc là, ça devient une adoration. Et de ce point de vue-là, eh ben, vous vous rendez compte que les adorations, elles sont indénombrables. On ne peut pas les compter. Elles sont trop nombreuses. Et là, il va citer quelques catégories d'ibada. Pourquoi il cite ces catégories-là? C'est pour montrer, ou plutôt c'est par, à cause du fait que la plupart des gens, ils font du shirk, et des gens qui s'assimilent à l'islam, et qui se réclament de l'islam, ils commettent leur shirk dans ces sujets-là. Donc il a dit premièrement, ad-du'a. La plus grande, ou la principale catégorie d'ibada, c'est ad-du'a. Ad-du'a que tu peux traduire comme Dua ul mas'ala, c'est-à-dire la dua de la demande, c'est-à-dire la prière, on peut traduire par l'invocation ou la prière. Et la dua dans le sens global, qui est dua ul ibada, c'est-à-dire l'adoration. Et quand tu trouves le verbe da'a ou yad'u ou le mot da'a dans le Coran, tu peux le comprendre des deux façons. Ça peut être dans le sens invoqué et ça peut être aussi un sens plus global qui est adoré. Et donc qui englobe tous les actes d'adoration, même les prosternations par exemple. Donc Allah dit par exemple, fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din, invoquez Allah en lui vouant sincèrement le culte. Ou alors le verset qui dit wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées sont à Allah, donc n'invoquez personne avec Allah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah ce qui ne lui répondra pas jusqu'au jour du jugement. Et ils sont insouciants vis-à-vis de leur invocation. C'est-à-dire ceux qui sont invoqués n'ont aucune connaissance que ces gens sont en train de les invoquer. Et lorsque les gens seront regroupés, ils seront des ennemis pour eux. Et ils renieront leur adoration. C'est-à-dire, ces gens que les gens adorent, au jour du jugement, ils seront des ennemis pour eux. Et ils se désavoueront d'eux. Donc, pour l'explication, ils disent, je vous lis en arabe, فَمَنْ دَعَ غَيْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ مُشْرِكُ الْكَافِرُ سَوَاءٌ كَانَ مَدْعُوهُ حَيًّا أَوْ مَيْتًا. Donc, celui qui invoque quelqu'un d'autre qu'Allah, dans une chose que seul Allah peut faire, alors il est devenu mushrik et kafir. Que celui qui l'invoque soit vivant ou soit mort. C'est-à-dire, ça peut se faire sur les tombes, comme la plupart des gens y font, mais c'est aussi quand la personne, elle dit à son cheikh, au grand turban, oh cheikh, guide-moi, ou accepte mon repentir, ou pardonne-moi, ou accorde-moi l'intercession. Alors que tout ça, ce sont des choses que seul Allah possède. Donc ils l'ont mis à l'égal d'Allah et ils l'ont adoré comme on adore Allah. وَمَنْ دَعَ حَيًّا بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يَقُولْ يَا فُولَنْ أَطْعِمْنِي أَوْ يَا فُولَنْ إِسْقِنِي وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Et celui qui invoque, en fait invoquer ici c'est plus l'ultimesse, c'est-à-dire celui qui demande à quelqu'un de vivant et lui dit donne-moi à manger par exemple ou donne-moi à boire. Là, il n'y a rien de mal, puisqu'il ne l'a pas mis à l'égard d'Allah, puisqu'il lui a demandé une chose que cette personne peut faire, tout simplement. وَمَنْ دَعَ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا بِمِثْلِ هَذَا فَإِنَّهُ مُشْرِكٌ لِأَنَّ الْمَيِّتَ وَالْغَائِبَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ بِمِثْلِ هَذَا. Ou alors celui qui invoque un absent, c'est-à-dire quelqu'un de vivant, mais d'absent, qui est loin. Ou un mort, par ces choses-là, ah ben celui-là, c'est-à-dire même par des choses qu'il serait capable de faire s'il était devant lui. C'est-à-dire, il dit au shir qui est à 3000 km à Damas, « Oh, shir Atel, donne-moi à manger. » Le shir, s'il était devant lui, il pourrait. Mais là, en l'occurrence, il ne peut pas puisqu'il est loin. Donc pareil, là, tu l'as mis à l'égard d'Allah, dans le fait de te donner à manger à distance. Et donc, c'est du shir. Ou pareil pour quelqu'un qui serait mort. Après, là, ils expliquent ce que je vous disais donc sur Abdu'a, comme quoi on peut la comprendre de deux façons. En tout cas, il y a un verset sur lequel j'attire votre attention et qu'il faut bien retenir au sujet du shirk. Ce verset-là, il va vous aider beaucoup si vous êtes confronté à des gens parmi les gens qui imitent les traditions et qui invoquent autre qu'Allah et qui essaient de vous déguiser ça par plein de mots. C'est-à-dire, ils changent les mots. Ils disent non, c'est pas de dua qu'on fait, c'est l'appel aux morts. Quelle différence. Ou alors ils disent non, c'est pas de l'adoration qu'on fait, c'est mahabbatu salihin. C'est aimer les gens pieux. Ils changent les mots des réalités pour leur changer de statut. Mais les noms ne changent pas la réalité des choses. Si j'appelle cette table chaise, vous savez pertinemment qu'elle restera une table. C'est pas parce que je l'ai appelée chaise qu'elle se transformera en chaise. Donc eux, ils appellent le fait d'invoquer les morts, ils appellent ça aimer les hommes pieux, appeler les morts, ou respecter les hommes pieux. Et ils veulent te faire passer pour celui qui respecte pas les hommes pieux si tu fais pas comme eux. Donc ça n'est que donner des noms à des réalités qui sont connues et dont le statut est connu. Donc ce verset, c'est celui où Allah dit قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي دَفْعًا وَلَا دَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا دَرًّا pardon قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا دَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Ce verset dit, dis-leur, c'est-à-dire, ô Mohammed, dis-leur. Pourquoi ce verset il est important? Parce que tous les musulmans, ou tous ceux plutôt, on va pas dire tous les musulmans, tous ceux qui s'apparentent à l'islam, parce que combien s'apparentent à l'islam mais ils sont pas musulmans, tous ceux qui s'apparentent à l'islam sont d'accord sur le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des êtres humains. Donc Allah ici il dit, dis, je ne détiens pour moi-même ni bien ni mal. Et si je connaissais l'invisible, j'aurais acquis beaucoup de bien et le mal ne m'aurait pas touché. Et la logique à suivre avec ce verset, c'est que dans ce verset, Allah montre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Sayyidul Bachar, il ne détient ni bien ni mal pour lui-même. Et ça, c'était de son vivant. Et les exemples qui illustrent ça, ils sont nombreux. Comme le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait tomber malade. Il pouvait être touché de la faim. Il s'est fait casser une dent pendant une bataille. Son oncle, Abu Talib, il voulait qu'il rentre dans l'islam, et pourtant il n'est pas rentré dans l'islam. Plein de choses qui montrent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne détient ni le bien ni le mal pour lui-même. Et il était atteint des maux par lesquels sont atteints les autres êtres humains. Sans différence. Donc dit, je ne détiens pour moi ni bien ni mal. Donc si ça c'est vrai pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'être humain le plus complet et qui est l'être humain qui est au plus haut degré, alors qu'en est-il de ceux qui sont en dessous de lui? C'est comme ça le raisonnement qu'il faut suivre. Et parmi ceux qui sont en dessous de lui, eh bien tous ceux-là qui sont enterrés et dont on dit qu'ils sont des hommes pieux. Donc si il n'était pas capable de repousser de lui-même le mal, premier raisonnement. S'il ne peut pas le repousser de lui-même pendant sa vie, encore moins il peut le repousser d'un autre. Ça, c'est la première chose. S'il ne pouvait pas repousser le mal pendant sa vie, encore moins après sa mort. Ça, c'est le deuxième raisonnement. Et si ça, c'est vrai pour lui, c'est encore plus vrai pour ceux qui sont en dessous de lui. Retenez ces trois points-là à propos de ce verset. Et vous pouvez l'appliquer à tous ceux qui viendront vous dire « Oui, mais cet homme pieux, en fait, moi, je ne l'invoque pas vraiment. Et puis, de toute façon, il est capable de repousser de moi le mal. » Il faut leur dire, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il n'était pas capable de repousser le mal de lui-même, de son vivant, alors qu'est-ce que cet homme pieux il peut faire pour toi une fois qu'il est mort, et il n'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après ils disent aussi parmi les catégories d'ibada al-mahabbatu wal-khawf wal-raja, c'est-à-dire l'amour, la peur et l'espoir. Mais il faut savoir ici, quand on dit al-mahabba, ce qui est voulu ici, c'est l'amour extrême, l'amour complet. L'amour qui te pousse à te soumettre, c'est-à-dire les traces de cet amour et les fruits de cet amour, c'est que tu te soumets à celui que tu aimes et tu t'humilies devant celui que tu aimes. C'est ça l'amour qui est une ibada. Parce que quelqu'un, il peut lire comme ça tout seul et il voit parmi les catégories d'adoration l'amour. Donc je dois aimer qu'Allah. Donc j'aime plus ma mère, j'aime plus mon père, encore moins ma femme et mes enfants. C'est pas ça qui est voulu. Pourquoi c'est pas ça qui est voulu? Parce que quand Amr ibn al-As, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ahabbu an-nas ilayk, qui sont les gens que tu aimes le plus? Il a dit Aisha. Et après il a dit min ar-rijal, il a dit Abuha. Et parmi les hommes, il a dit son père. Donc le prophète aimait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa an-nas ajma'in. Nul d'entre vous ne croira, c'est-à-dire n'aura la foi complète, jusqu'à ce que je sois plus aimé pour lui que ses enfants, son père et tout le monde. Donc ça prouve qu'on aime aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à Mu'ad ibn Jabal, ya Mu'ad inni uhibbuk. Ô Mu'ad, je t'aime. Donc le prophète lui-même a voué un amour à autre qu'Allah. Mais ce n'est pas l'amour d'adoration. Au contraire, l'amour d'adoration que tu voues à Allah va faire que tu aimes ceux qui aiment Allah et ceux qui sont les alliés d'Allah. Donc cet amour, qui est une branche de cet amour, c'est-à-dire l'amour que tu portes aux êtres humains, il n'est que le fruit et la branche de cet amour extrême que tu voues à Allah et qui est une adoration. Après, il y a aussi, c'est la même chose pour le khawf et l'espoir. C'est-à-dire la crainte et l'espoir. C'est pas toute crainte qui est du polythéisme. Comme lorsque Moussa a vu les bâtons des sorciers trembler, il a ressenti une crainte, comme Allah a dit, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوسَى. Moussa a ressenti une crainte en lui-même, lorsqu'il a vu les bâtons des sorciers se transformer en serpents. Alaykum salam. Moussa qui est le messager d'Allah. Ce qui prouve que la peur naturelle est quelque chose de normal. La peur d'une créature qui est plus forte que toi, ça c'est quelque chose de normal. Mais la peur extrême, la peur d'être englouti sous la terre, la peur d'être puni par une maladie, la peur d'être puni, c'est-à-dire au niveau du destin, ça n'est dû, ça ne doit être voué que pour Allah. On appelle ça khawf al-sir, c'est-à-dire avoir peur d'être touché par quelque chose que seul Allah peut faire. C'est cette peur-là qui est du shirk akbar, qui est du polythéisme, qui te fait sortir de l'islam. Comme des gens, tu vois, ils sont en bus, et ils disent, il fait cette fois le tour autour d'une tombe, d'un mausolée en bus, parce que s'il fait pas ça, eh ben il va se faire engloutir par le wali qui est enterré dans cette tombe. Donc là, c'est une peur. Tu as peur que cette personne t'engloutisse, alors que seul Allah est capable de ce genre d'acte. Donc là, c'est une peur qui est du shirk akbar. C'est associé à Allah dans la peur. Après, il y a une peur qui est simplement haram, qui va être simplement interdite, sans atteindre le stade du shirk. C'est avoir peur d'une créature, au point de ne pas appliquer la religion par peur qu'elle ne te punisse, par exemple, ou qu'elle te blâme. Donc là, ça n'atteint pas le stade du shirk akbar, mais c'est une peur qui est une désobéissance. Et c'est, elle atteint le stade de shirk asghar, de shirk mineur. Et prends cet exemple-là et applique-le à toutes les adorations, comme l'espoir ou le fait d'avoir confiance en Allah, qui est aussi une adoration, comme ils l'ont cité ici, at-tawakkul. Donc, at-tawakkul, qui est le fait de se reposer sur Allah, c'est-à-dire que le cœur espère la bonne fin, espère acquérir un bien, espère ça d'Allah Azza wa Jal, tout en prenant les causes qui arrivent à cette fin. C'est ça le tawakkul. Al-i'timad ala Allah. Le fait, entre guillemets, de se reposer sur Allah au sujet d'acquérir un bien, au sujet de la réussite d'une entreprise, tout en prenant les causes concrètes pour arriver à ce bien. C'est ça, tawakkul. Donc, parmi les preuves qui parlent de ça, c'est وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. À Allah, ou sur Allah reposez-vous, ou à Allah faites confiance si vous êtes croyant. Regardez comment le verset, dans deux façons, de deux façons, il prouve le tawhid au niveau du tawakkul. Puisqu'il a dit وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. Il n'a pas dit فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ. S'il avait dit فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ, ça voudrait dire faites confiance à Allah. Mais là, il a dit à Allah faites confiance. Donc c'est comme pour tout à l'heure. Ça implique l'unicité. Et après, il dit إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Si vous êtes croyant. C'est-à-dire, il l'a mis comme condition de la foi complète. Pour être un vrai croyant, il faut être tawakkul. Ce qui montre que tawakkul est obligatoire. Ou alors, le verset qui dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffit. Et parmi les adorations aussi, Ar-Rahba, Ar-Rahba et Al-Khushu'a. Donc Ar-Rahba qu'ils expliquent ici, c'est un peu comme l'espoir. C'est aimer arriver à la chose que tu aimes. Ar-Rahba, c'est fuir d'une chose que tu crains. Donc ça aussi, ce sont des adorations qui ressemblent à l'espoir et à la crainte. Et le khushu', c'est le fait de se soumettre à la grandeur d'Allah. De se soumettre, comme ils le disent ici, au décret universel et au décret religieux d'Allah. Car le décret d'Allah, al-qada, il est de deux sortes. Qada ul-kawni et qada ul-shari. Al-qada ul-kawni, c'est le décret universel, c'est-à-dire le destin. Ce qu'Allah t'a destiné. qu'il a destiné qu'il allait t'arriver. Ça, tu dois t'y soumettre. Et l'autre genre de qada, de décret, c'est al-qada al-shar'i, qui est le décret religieux, c'est-à-dire les règles de la religion. Donc parmi les preuves à ça, le verset qui dit « Innahum kanu yusari'una fil khayarat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in » Ils s'empressaient, en parlant des hommes pieux, des gens du livre, ils s'empressaient dans le bien et ils nous invoquaient ou ils nous adoraient « raghaban wa rahaba » avec crainte. Donc raghaba, c'est une crainte avec une avec espoir, et rahaban avec crainte. Et ils étaient khashi'in. Khashi'in, c'est-à-dire soumis tout en étant craintifs. Une autre catégorie de peur, c'est al-khashia. Al-khashia, il explique ici en disant que c'est une peur qui est construite sur ta connaissance de la grandeur de celui que tu crains. Donc Allah dit dans le Coran, fala tarshawhum wa khashawni. Ne les craignez pas. Al-khashia, on peut aussi traduire par la crainte. C'est-à-dire al-khashia, al-khawf, al-rahba. Tout ça, c'est un peu des synonymes avec quelques subtilités qui différencient entre elles. Donc, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Ne les craignez pas et craignez-moi. Et aussi, الْإِنَابَ. الْإِنَابَ qui est le fait de revenir vers Allah en accomplissant son obéissance et en délaissant ses interdits. Donc, le verset dit وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Revenez. الْإِنَابَ, c'est en quelque sorte revenir vers Allah. Revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Parmi les catégories d'adoration aussi, al-isti'ana, qui est le fait de demander l'aide, al-aoun. Donc Allah dit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi dont nous demandons l'aide. Ce qui prouve que c'est exclusif à Allah, puisqu'il n'a pas dit nasta'inuka, nous te demandons l'aide. Il a dit, c'est toi à qui nous demandons l'aide. Ça implique l'exclusivité. Bien sûr, dans l'aide, dans ce que seul Allah peut réaliser. Après l'aide entre les êtres humains, ça a été permis de le demander. Même si le mieux, même dans ça, c'est de ne pas le demander. Jusqu'à ce que tu y sois poussé. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à Ibn Abbas, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et quand tu demandes de l'aide, demande l'aide à Allah. Ça, c'est valable à la fois pour l'isti'ana qui est une adoration, mais aussi pour l'isti'ana commune. C'est-à-dire même dans les choses communes, si tu peux te passer des gens, essaye de le faire. Et ne demande qu'à Allah. Et ne demande l'aide qu'à Allah. Et c'est ainsi que les compagnons du prophète, radiallahu anhu, ils étaient. À tel point que l'un d'entre eux, quand il est sur sa monture, et il fait tomber son épée, ou il fait tomber un objet, au lieu de demander au compagnon qui est en train de marcher à côté de lui, de lui ramasser, il descend de sa monture pour ramasser lui-même son objet, etc. C'est comme ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait appris à se comporter. Et dans le hadith, il est dit, Inna Allah, dans Sahih Muslim, yuhibbul abd al-ghani. Allah aime le serviteur riche. Mais ghani, c'est pas juste riche. Ghani, c'est celui qui se passe des autres. Et aussi, al-isti'adha. Al-isti'adha, c'est chercher al-aoud, c'est-à-dire la protection. C'est demander la protection. Donc, comme dans les versets qui disent, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Dit, je demande la protection du Seigneur de l'homme. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Contre le mal de ce qu'il a créé. Et aussi dans Sourate An-Nas, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Et aussi, al-istighatha. Al-istighatha, c'est de demander al-rawth, qui est le fait d'être sorti d'une situation difficile. Donc, faites la différence entre isti'ana, c'est demander l'aide, isti'adha, c'est demander une protection, et istiratha, qui est englobé dans l'isti'ana, c'est demander d'être sorti d'une situation difficile. Comme Allah dit, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Lorsque vous avez istastaghithun, c'est-à-dire lorsque vous avez demandé à Allah qu'il vous sorte d'une situation difficile, et il vous en a sorti. Dans Surat Al-Anfal. Donc jusque-là, quelqu'un, il peut se demander, mais pourquoi il nous parle de tout ça? Si tu regardes dans le monde musulman actuel, tu vas trouver des gens qui font absolument tout ce qu'on vient de citer, ils le font pour autre qu'Allah. Donc il va à la tombe d'un tel, et il lui dit, al-rawf, al-rawf. Donc c'est-à-dire, sors-moi de ma situation, sors-moi de ma difficulté. Ou alors il dit, al-aoun, C'est-à-dire, je veux de l'aide. Il va voir l'homme pieux qui est enterré et lui dit, je veux ton aide. Ou alors, il lui demande, et ça c'est énorme aussi, c'est-à-dire, quand je dis énorme, c'est ce qui est plus répandu peut-être, l'isti'ada, le fait d'être protégé. Et parfois, c'est même pas à des créatures qu'il le demande, qui étaient vivantes un jour ou l'autre, mais à des créatures qui n'ont aucune vie, comme les pierres, ou les morceaux de tissu, ou les talismans. Sachant que si tu demandes ou si tu recherches la protection d'un objet, sache que ce qu'on appelle les talismans, ça a deux statuts. Ça peut être soit du shirk asrar, soit du shirk akbar. C'est du shirk asrar dans le cas où tu penses que c'est seulement un moyen d'acquérir la protection d'Allah. Donc tu penses que la protection vient d'Allah, mais que c'est grâce à cet objet. Mais si tu penses directement que la protection te vient de cet objet, et regardez comme c'est vil, comme dogme, de croire qu'une protection elle peut venir d'un objet qui n'a aucune vie, qui ni ne vit ni ne meurt. Ah ben là, c'est du shirk akbar. Et tu as mis cet objet que tu peux tenir dans ta main à l'égal du créateur des cieux et de la terre, dans le fait de te protéger. Et malheureusement, la plupart des gens, c'est ça qu'ils font. Ils pensent pas, c'est Allah qui va me protéger parce que j'ai mis ça. Ils pensent directement que c'est leur objet qui va les protéger. Ça, c'est l'isti'ada. Ou alors, ils font l'isti'ada bishayatin. Ils demandent la protection des djinns et des shayatin. Comme Allah a cité dans le Coran. À propos du fait qu'une partie des hommes, parmi les êtres humains, cherchaient la protection. Yasta'idhun. Ils cherchaient la protection auprès de certains hommes parmi les djinns. Mais quel a été le résultat? Fazaduhum rahaqa. Les djinns n'ont fait que les enfoncer dans leur humiliation. Puisque les djinns sont une créature inférieure à l'être humain dans leur création. Et eux-mêmes ont peur à la base de l'être humain. Donc comment l'être humain il va aller chercher protection auprès du djinn? Alors qu'à la base, c'est le djinn qui a peur de l'être humain. Mais plutôt l'être humain il doit chercher la protection auprès de celui qui maîtrise les djinns, qui est Allah Azza wa Jal, et qui est le créateur des djinns. Donc c'est pour ça les Arabes avant l'islam, quand ils descendaient dans une vallée, ils criaient « Je demande protection, Asta'idhu bi Rabbi hadha al-wadi, ou bi Sayyidi hadha al-wadi. Je me réfugie auprès du maître ou du chef de cette vallée. » Il voulait dire par là le chef de tribu des djinns qui habite cet endroit. Et Allah nous a ordonné mieux que ça lorsque est venu l'islam. Il nous a montré que ça c'est un égarement, de chercher protection auprès d'une autre créature, contre des créatures que tu ne vois pas. Et le prophète, comme dans Sahih Muslim nous a enseigné, إِذَا نَزَلْتَ مَنْزِلًا, lorsque tu descends à un endroit quelconque, c'est-à-dire que ce soit dans une maison ou un campement, فَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Il nous a enseigné une parole, et il nous a détourné de l'adoration des créatures vers l'adoration d'Allah. Et il nous a dit, lorsque tu descends dans un endroit, dis, je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah, qui sont un attribut d'Allah, bien sûr, contre le mal de ce qu'il a créé. Donc ça, c'est pour l'isti'ada. Et encore pire, des fois, pour l'inaba. Tu vois des gens qui peuvent parfois aller jusqu'à délaisser des péchés, non pas pour Allah, mais pour le shaykh. Donc par exemple, cette personne, elle boit de l'alcool, ou elle fait zina, elle délaisse cet acte, et elle voue ce délaissement au shaykh. Parce que elle croit que ce shaykh, c'est lui qui va la porter sur ses épaules, ou dans sa main au jour du jugement. Et c'est lui qui va le sauver de l'enfer au jour du jugement. Parce que, pourquoi je vous explique ça? C'est parce que quand on explique l'inaba, toi tu vois pas en quoi c'est un problème. En quoi délaisser les péchés pour Allah, c'est une adoration certes, mais quel rapport avec le fait que tout à l'heure on parlait du shirk? Sache que déjà ils vont jusqu'à associer Allah dans ça. Ils délaissent un péché, même plus qu'Allah a interdit, mais ils ne le délaissent pas pour celui qui l'a interdit. Ils le délaissent pour plaire au shirk. Alors que le shirk lui-même, dans beaucoup de cas, il fait pire que ce que la personne a fait. Et lui, il a délaissé salat, il a délaissé zakat, et il s'est permis beaucoup d'interdits, notamment la fornication. Pourquoi? Parce qu'il a atteint al-haqiqa. Ça, c'est auprès de certains soufis. Il a atteint la réalité. Donc il a plus besoin d'adorer Allah, puisqu'Allah dit dans le Coran, fa'abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Adore Allah jusqu'à ce que la certitude te vienne. La certitude ici, ça veut dire la mort. Donc eux ils disent non, la certitude, c'est-à-dire quand tu as atteint un certain degré, l'adoration ne sert qu'à accéder à ces degrés. Une fois que tu y as accédé, c'est plus la peine d'adorer, ça sert à rien. Et il n'y a plus de différence entre le halal et le haram. Et donc, il peut très bien faire ce qu'il veut avec son disciple, puisque son disciple il doit être entre les mains de son shir, comme le mort entre les mains de celui qui le lave. Donc il peut lui faire ce qu'il veut, puisque lui il est plus responsable devant Allah. Les obligations et les interdits ne lui sont plus dirigés. Et toi tu t'en vas délaisser un péché. Au lieu de le délaisser pour celui qui te l'interdit, qui est Allah Azzawajal, tu le délaisses pour ce genre de khabith, pour ce genre de sale personne. Parce qu'elle t'a dit qu'au jour du jugement, si tu fais un pacte avec elle, c'est elle qui va te sauver. Et tu seras sous son drapeau, ou tu seras dans sa main. Il y en a qui disent, je vous porterai tous dans ma main, mes disciples, ou sur mon dos, etc., etc. Et c'est moi qui vais vous sauver de l'enfer. Et encore pire, Ad-Dua, l'exemple, il est plus clair pour qu'on ait besoin d'en parler. Le fait d'invoquer les morts en leur demandant certains besoins. Et quand vous regardez dans Kitab al-Tawhid, le livre de Mohammed ibn Abdel Wahhab, il y a toute une série de chapitres. Si tu lis Kitab al-Tawhid comme ça, tout seul, pour la première fois, tu te dis, qu'est-ce qu'ils font là, ces chapitres? Ces chapitres, tu les comprends une fois que tu as entendu ça. Par exemple, des chapitres où Allah, où il a cité des versets et des hadiths qui nous parlent du fait que les anges, lorsqu'ils entendent la voix d'Allah, qui décrète un décret, ils sont tous pétrifiés. Et ils tombent tous, entre guillemets, assommés. Quel rapport dans Kitab al-Tawhid avec le fait de vouer une adoration entre Allah? Ou alors, il nous met un chapitre pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne guide pas qui il veut. Bab, innaka la tahdi man ahbabt. Le chapitre qui dit, comme a dit le verset, tu ne guides pas qui tu aimes. Quel rapport avec l'adoration et le shirk? Ça fait partie du fiqh de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Parce que Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans son livre, Kitab al-Tawhid, il a emprunté la même voie que l'imam al-Bukhari dans son sahih. C'est-à-dire, il met des titres avec des preuves en dessous, et les titres ont un fiqh. C'est-à-dire, il y a une science et un savoir à tirer de ces titres, et à tirer de l'organisation des chapitres. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ce genre de chapitre? C'est comme s'il nous disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas guider qui il veut, il ne détient pas la guider. Les anges, lorsqu'ils entendent Allah, ils sont pétrifiés. Donc ils n'osent pas parler, ils ne devancent pas Allah par la parole. Et les anges sont les meilleurs des créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des êtres humains. Donc comment, si le prophète ne détient pas la guidée, toi tu vas aller demander la guidée? Or la guidée, c'est la plus grande des doigts. Et tu vas la demander à autre que le prophète. Alors qu'en est-il pour les autres doigts? Demander à un enfant, demander, etc. Les anges, pour revenir au chapitre sur les anges, sont les plus grandes créatures et les créatures les plus fortes. Et pourtant, quand Allah parle, elles sont pétrifiées. Et elles-mêmes, elles ont peur d'Allah et elles craignent son châtiment. Alors comment tu vas demander à être sauvé du châtiment à un wali qui n'a rien à voir, lui, avec les anges et qui porte ses péchés et qui peut-être est en train de payer le prix de ses péchés? Regardez le fiqh dans ces chapitres. Et parmi, donc là, c'est un peu plus clair, entre guillemets, parmi les catégories d'ibadah, quand je dis c'est plus clair, c'est-à-dire les mukhalafat, les divergences ou les contradictions qu'il y a dans la communauté musulmane sur ce sujet-là, elles sont plus flagrantes. C'est al-dhabh, le fait de sacrifier une bête. Donc Allah dit dans le Coran, « قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ. » Dis ma vie et ma salat et dis ma salat et nusuki, c'est-à-dire mes sacrifices, ma vie et ma mort sont pour Allah, sans associer à lui. Donc ça prouve bien que les sacrifices sont dédiés à Allah Azza wa Jal. Ou alors le verset qui dit fasalli li rabbika wanhar, prie pour ton Seigneur, c'est-à-dire prie dédie ta salat à ton Seigneur, et inhar, et sacrifie. Donc, la nahar, ici, il a été cité, le sacrifice, il a été cité avec as-salat, et dans le même impératif, ce qui prouve que c'est aussi une adoration qu'Allah veut qu'on lui voue. Et aussi le hadith qui n'est pas cité ici qui dit la'anallahu man dhabaha li ghayrillah, qu'Allah maudisse celui qui égorge pour autre qu'Allah. Ça c'est dans Sahih Muslim. L'un d'entre vous, il peut se poser la question, est-ce que ces bêtes, quand je vais à la ferme, j'achète un poulet et je l'égorge pour faire un tagine, est-ce que c'est une adoration? L'adoration, c'est la chose par laquelle tu te rapproches d'Allah et tu cherches à te rapprocher d'Allah. Et certes, quand tu égorges un poulet pour manger, c'est pas un acte d'adoration. Tu cherches pas à te rapprocher d'Allah. Ce que tu cherches, toi, c'est manger, c'est tout. Si ce n'est que ces sacrifices-là, en fait, ce sont pas des sacrifices, ce sont des simples. C'est des égorgements pour tuer la bête, c'est tout. Si ce n'est que cet égorgement-là, Allah nous a ordonné de prononcer son nom et de ne pas prononcer le nom de quelqu'un d'autre lors de cet égorgement. Mais le sacrifice qui est une adoration, qui est vraiment un sacrifice, c'est le sacrifice qu'on fait par exemple le jour de l'Aïd, puisque celui-là il sert pas à manger, même si on va le manger, mais à la base c'est pas pour manger qu'on fait, c'est pour obéir à l'ordre d'Allah lorsqu'il nous a dit de sacrifier. Même une personne qui serait Shab'an, même une personne qui serait le ventre rempli, le jour de l'Aïd elle va sacrifier quand même son mouton. Pourquoi? Par obéissance envers Allah. Donc là c'est une adoration. Ou alors aussi comme on fait au Hajj, lorsqu'on sacrifie. Donc vous faites la différence entre les sacrifices qui sont une adoration et le simple fait de tuer une bête pour la manger. Ça c'est pas une adoration, c'est un acte mondain, si ce n'est qu'on ne doit pas prononcer le nom d'autre qu'Allah lorsqu'on le fait. Après aussi un navr. Un navr, c'est le fait de s'imposer une obéissance qui à la base n'était pas obligatoire. Et un navr, il peut être mutlaq ou muqayyad. On dit en français le vœu. Et il peut être conditionné ou absolu. C'est-à-dire, tu peux dire par exemple, un vœu conditionné, si j'ai mon diplôme cette année, je fais une umrah. Donc tu conditionnes une adoration, à la base elle n'était pas obligatoire. C'est-à-dire si toi tu as déjà fait une umrah par exemple. Parce que la umrah, pour beaucoup de ulama, elle est obligatoire, comme le hajj. Mais toi tu es quelqu'un, tu as déjà fait le hajj et tu as déjà fait la umrah. Et tu dis, si j'ai mon diplôme cette année, je fais une umrah. Donc tu t'imposes une adoration qui à la base n'était pas imposée. Mais à une condition, c'est d'avoir ton diplôme. C'est ça le vœu. Ou alors il peut être inconditionné. Comment? Tu dis, je fais le vœu pour Allah de faire une umrah. Donc sans condition. Si ce n'est que, donc le vœu, lorsque tu fais un vœu, et que par exemple tu as ton diplôme, ou alors tu fais un vœu inconditionné, là il était obligatoire de remplir ce vœu. Mais donc faites la différence. Faire le vœu au départ, ça c'est déconseillé, c'est makruh, parce que c'est imposer une adoration qu'Allah ne t'a pas imposée. Et ça c'est détestable dans l'islam. Mais une fois que tu te l'es imposé, la remplir c'est obligatoire et ça devient une adoration. Faites la différence. Le vœu il a deux étapes. Premièrement, prononcer le vœu, ça c'est pas conseillé. C'est pas une adoration comme les autres adorations qu'il nous est conseillé de faire et de multiplier. Pas du tout. Et les sahabas, c'était pas des gens qui multipliaient les vœux pour se rapprocher d'Allah. Mais plutôt, ils multipliaient les salats et le jeûne, etc., et les aumônes. Donc ça, c'est détestable. Mais la deuxième étape, c'est qu'une fois que t'as fait le vœu, il t'est obligatoire de le remplir. Donc, les versets qui disent ça, par exemple, yufuna bin nafri, wa yakhafuna yawman, kana sharruhu mustatira. Allah nous parle des croyants en disant ils remplissent leurs vœux, yufuna an-nadr, c'est-à-dire ils accomplissent leurs vœux. Et ça se trouve aussi dans le monde musulman. Tu trouves des gens, ils disent si j'ai mon diplôme, lui il va pas aller vouer 3 jours de jeûne à Allah, il va aller vouer un coq à Sidi Foulen. Et le pire c'est que le coq, encore Allah bar sa rahma, il a fait que les sacrifices qu'on égorge pour lui, on les mange après. Et parfois, il les mange pas. Il les laisse comme ça, par vénération envers le chir. Il égorge le coq et il le laisse surtout pas le toucher. Ou alors, il va vouer un tawaf autour de sa tombe ou des jours de jeûne dédiés au chir, etc., etc. Après, dans le chapitre d'après, ils ont mis un chapitre qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam protégeait le tawhid. C'est-à-dire, il a coupé tous les chemins qui peuvent mener aux contradictions, à ce qui contredit au tawhid. Même parfois des choses qui ne sont pas du shirk en elles-mêmes, mais il les a interdit pour ne pas arriver à ce qui est interdit. Donc là, il y a beaucoup de chapitres qui parlent de certaines interdictions, qui montrent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis de façon complète et nous a éclairci de façon complète à propos du tawhid, et qu'il a fermé tous les chemins qui mènent à ce qui contredit le tawhid. Donc là, je vais les citer de façon résumée, parce qu'on est déjà arrivé à 50 minutes et qu'il y a beaucoup de pages. Donc par exemple, en ce qui concerne Ar-Ruqa. Ar-Ruqa, c'est le pluriel de Ruqya, c'est-à-dire l'exorcisme. Le fait de prononcer des paroles pour soigner un mal. Un mal qui soit corporel ou psychologique. Et donc ces ruqyas sont permises. Donc Auf ibn Malik radiyallahu anhu disait: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك قال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك رواه مسلم. Donc dans ce hadith, Auf ibn Malik dit: nous disions des ruqyas, c'est-à-dire des exorcismes ou des incantations, dans al-jahiliya, avant l'islam. Puis nous avons dit, c'est-à-dire une fois que nous nous sommes convertis, ô messager d'Allah, que penses-tu de ça? Et il a dit: exposez-moi vos incantations. C'est-à-dire, dites-moi ce que vous dites. Et après, il a dit: il n'y a pas de mal dans les incantations si elles ne comportent pas de shirk, de polythéisme. Donc, de là, on comprend que les incantations, elles sont de deux sortes. Ruqa shir'iyya et ruqa shirkiyya. Des incantations, et les deux s'appellent ruqya. Donc, des incantations qui sont basées sur l'invocation d'Allah, sur l'invocation par les noms d'Allah, sur la récitation du Coran et des invocations prophétiques, ça c'est ar-ruqya shar'iyya, qui est permise et qui est un moyen recherché pour guérir tout mal. Pas seulement le mal de la sorcellerie, des djinns ou du mauvais œil, mais aussi le mal corporel, puisqu'Allah a fait du Coran une guérison pour toute chose, même les maux corporels. Et ar-ruqya shirkiyya, les incantations qui sont du shirk et qui sont celles qui comportent les prières dédiées aux shayatines et des incantations en langue que tu comprends pas. Des fois tu vas chez ce qu'on appelle le fqih, le talib, et qui a rien d'un fqih ni d'un talib, c'est plutôt un safih. Il faut l'appeler safih, faut pas l'appeler fqih. Donc tu vas chez le safih pour être guéri et tu l'entends, il fait blablabla, tu comprends rien à ce qu'il dit. Ou alors, ça aussi je vous m'en garde, c'est que des fois, c'est-à-dire dans ce que j'ai entendu, dans les témoignages qui m'ont été rapportés, souvent il commence par des versets du Coran. Et même des fois il tient le coup, pendant 20 minutes, une demi-heure. Parce que malheureusement, des fois c'est des gens, ils connaissent le Coran par cœur. Il tient le coup, et il récite le Coran pendant 20-30 minutes. Une fois que tu commences à être un petit peu dans les vapes, ou une fois que le frère qui est avec toi, il dit: bon, moi j'ai un truc à faire, je reviens dans une demi-heure, là il déballe. Tu comprends rien à ce qu'il dit. C'est ni de l'arabe, ni du berbère, ni quoi que ce soit. Ça ressemble à rien. Là, il est en train d'invoquer les shayatines. C'est pour ça, parmi les conditions de la ruqya, c'est que ce soit en arabe, dans une parole claire. Pour qu'on comprenne, ce que la personne, elle est en train de réciter. Et la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils agissent. Ils disent des paroles que tu comprends pas. Et ces gens-là, donc, as-sufaha, généralement, ils se présentent pas à la communauté musulmane comme des sorciers ou comme des charlatans. Ils vont pas se présenter à des gens qui croient en Allah au jour dernier en disant: voilà, nous on est des mécréants, athées, et on associe à Allah et on a vendu nos âmes au diable, et venez pour la consultation, c'est 30 €. Personne n'irait chez eux. Mais plutôt, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre la chachia, ils vont mettre la djellaba, certains ils vont aller jusqu'à apprendre le Coran par cœur, et ils vont se présenter à la communauté musulmane comme des gens pieux. C'est pour ça, des fois, tu vois le Hajj Ousmane ou le Hajj Mamadou. Tous les Jumu'ah, tu le vois à la mosquée. Et en plus, il a une barbe, une chachia, une djellaba, toujours. Et un chapelet. Tu dis, je comprends pas. Il fait de la sorcellerie, il a son annonce dans le journal, et pourtant c'est un homme pieux en apparence. Ou alors tu vois le Hajj Mohamed, le Hajj Ahmed, et pareil, il vient au premier rang à la mosquée, il fait tolba avec tolba, quand il y a un mariage, il va ramasser son billet en récitant le Coran, ou quand il y a un mort, il va manger l'argent sur le dos des morts. Donc les gens, ils se disent, bah celui-là c'est un homme pieux. Ça, c'est la façon par laquelle les sorciers acquièrent la confiance des gens. Et en Arabie Saoudite, on avait entendu un sorcier qui s'était repenti, ou plutôt mon prof, Khalid al-Raddadi, il disait, il connaissait un sorcier qui s'était repenti. Donc déjà, faut le faire, machallah. Et il disait, pour que les shayatin y m'aident dans ce que je fais, il dit, j'allais à la mosquée tous les jours, chaque fois par jour, avant l'Aven, au premier rang. Et je lisais le Coran, jusqu'à la salat. Donc quand il me dit ça comme ça, tu dis, bah, ça c'est des actes pieux, pourquoi les shayatin vont te récompenser? Mais écoutez la dernière phrase. Wa ana junub. Je faisais tout ça en état de janaba. Alors que les ulama, ils disent, celui qui viendra prier en état de janaba, muta'ammidan, il sort de l'islam. Celui qui prie en état de janaba, ou même sans ablution, de façon volontaire, il sort de l'islam. Parce qu'il s'est moqué d'Allah. Là, lui, il faisait tout ça en état de janaba. Pour plaire aux shayatin. C'est-à-dire, il fait du blasphème. Mais regardez comme son blasphème, il a une double face. À la fois, c'est du blasphème par lesquels il acquiert l'association des shayatin, mais à la fois, il acquiert la confiance des musulmans. Parce que, les musulmans, ils disent, Hada, comment tu peux parler sur lui? Il vient 5 fois par jour à la mosquée et il est tout le temps en train de lire le Coran. Donc, en tout cas, ça, c'est pour Ar-Ruqa. Et Ar-Ruqa, ça rentre dans l'aspect global du hadith qui dit, Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Dans Sahih Muslim, celui qui peut être utile à son frère, qu'il le fasse. Donc les ruqyas, elles ont cet aspect licite, ou même recommandé, puisqu'elles sont un bien pour ton frère musulman. Par contre, ici, ils parlent des conditions de la ruqya, et ils disent, pour qu'elle soit bonne, il faut 3 conditions. Donc la première, c'est de ne pas croire que la ruqya est utile en elle-même, mais qu'elle n'est qu'un moyen pour qu'Allah donne la guérison, comme c'est le cas de tout médicament. La deuxième, c'est qu'elle doit être conforme à la religion et ne pas comporter de shirk ou d'innovation. Et la troisième, c'est qu'elle soit compréhensible. Pas avec des choses, des incantations qu'on ne comprend pas. Et l'imam Malik a été questionné à propos de l'istirqa. Il a dit, on lui a dit, ayarqir rajulu aw yastarqi. Est-ce que l'homme peut faire ruqya ou demander qu'on lui fasse ruqya? Et il a dit, la ba'sa bi dhalik, bil kalam at-tayyib. Il a dit, il n'y a pas de mal à cela, avec les bonnes paroles. Après, ici, ils ont mis un chapitre sur At-Tama'im. At-Tama'im, c'est-à-dire les talismans. Tout ce qu'on porte pour être protégé. Donc, leur statut, c'est qu'elles sont interdites. Là, il n'y a pas de détails dans les Tama'im. Toutes les Tama'im sont interdites. Donc, c'est facile à retenir. Et ici, il rapporte les hadiths qui prouvent tout ça, donc notamment le hadith d'Ibn Mas'ud qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Inna ar-ruqa wa at-tama'ima wa at-tiwalata shirk » dans les sunan d'Abu Daoud. « Ar-ruqa » c'est-à-dire les incantations et les talismans, et « at-tiwala » c'est une autre sorte de talisman, sont du shirk. Donc retenez par rapport aux incantations, ici ce sont les incantations qui sont celles de Al-Jahiliya, qui sont du shirk, pas les incantations qu'on fait par les versets du Coran. Et il a cité donc dans ce verset At-Tama'im. Donc At-Tama'im, c'est le pluriel de Tamima. C'est tout ce qu'on accroche, que ce soit à son cou, ou à sa maison, à sa voiture, à son poignet, à son pied, etc. pour être protégé de quoi que ce soit, ou pour avoir un bien, de la chance, etc. Et quand vous lisez les hadiths, des fois vous lisez certains, comme ils vont le dire ici dans des chapitres, le chapitre d'après, ils ont mis le fait de mettre une halqa, ou le fait de mettre un khayt. C'est-à-dire, certaines sortes de talismans. Mais ce qui est voulu dans ces hadiths, c'est pas cette sorte-là spécifique qui est interdite. Parce que cette sorte-là, si elle est citée dans les hadiths, c'est parce que c'est celle qui était connue à l'époque du prophète. Comme le fait qu'il mettait un bracelet en cuivre autour de de leurs bras pour être protégés de certaines maladies. Quelqu'un pourrait dire c'est juste ça qui est interdit. Mais si je mets un fer à cheval, ça c'est permis. Non. Ce qui est voulu par là, c'est tout at-tama'il. Puisque le hadith qu'on vient de lire, il est général. Mais certains hadiths te parlent d'illustrations précises de genre de tama'im qui étaient connus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith qui dit man ta'allaqa shay'an wukila ilay, celui qui s'accroche à quelque chose, c'est-à-dire ce ta'allaqa, ça veut dire il porte quelque chose, sera délaissé à cette chose-là. Ça c'est dans le Musnad et les Sunan de Tirmidhi. Et le hadith qui dit man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu la wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu la. Le hadith qui dit celui qui s'accroche à un talisman, qu'Allah n'accomplisse pas son affaire. Fala atam Allah. C'est-à-dire, il a dit une dua qui ressemble au mot tamima. Ça, c'est dans le musnad de l'imam Ahmed. Et le hadith qui dit, man alaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui porte un talisman a commis du shirk. Ça, c'est dans le musnad aussi. Après, il y a la question sur les talismans faits à partir du Coran. Comme c'est aussi répandu, les gens, ils portent des versets du Coran. Donc ça, il faut savoir que c'est une question sur laquelle les compagnons du prophète eux-mêmes ont divergé. Certains d'entre eux voyaient que c'était permis, et d'autres non. Mais l'avis choisi par beaucoup de ulama, c'est de dire que c'est haram. Malgré cette divergence entre les compagnons. Pourquoi dire que c'est haram? Parce que, premièrement, ça englobait dans l'aspect général des hadiths qu'on vient de lire. Les hadiths n'ont pas fait d'exception entre eux, les talismans portant du Coran et le reste des talismans. Bon, cet argument, à la limite, on pourrait dire, oui, mais là, ce sont les compagnons du prophète. Leurs paroles nous détaillent la sunna. Mais il y a une autre cause, ou deux autres causes qui font que c'est haram, et que les ulama, ils préfèrent dire que c'est haram. C'est notamment que c'est une dharia. C'est-à-dire, c'est un moyen qui va mener au shirk. Les gens, ils commencent par des talismans du Coran, après, tu sais pas où ils vont finir. Première chose. En plus, c'est pas une sunna. Le prophète n'a pas recommandé de porter des talismans. Au maximum, tout ce qu'on peut trouver, c'est la permission de certains sahaba seulement. Sachant que les autres ont dit que c'est interdit. Donc, sachant que le prophète ne l'a pas recommandé, ne le faisait pas lui-même, et les sahaba eux-mêmes ne le faisaient pas, eh ben, il vaut mieux carrément l'interdire avant que ça mène à pire. Et aussi parce que c'est un peu une humiliation de la parole d'Allah. Puisque la personne, elle va accrocher son talisman. Et parfois, tu vois ça. Tu vois la personne, elle a un talisman qui comporte le Coran. Et quand il est 11h du soir, il va en boîte. Il passe sa soirée en boîte. Après, le reste de la soirée, vous savez où, etc. Peut-être il finit saoul. Tout ça avec son talisman Ayatul Kursi autour du cou. Est-ce que ça, c'est pas de l'humiliation de la parole d'Allah? Est-ce que c'est ça le respect de la parole d'Allah? Qui n'a pas été descendu pour être accroché, alors encore moins accroché au cou d'un fasiq qui sort en boîte et qui finit à l'hôtel. Donc pour toutes ces raisons-là, il vaut mieux l'interdire complètement. Aussi, on pourrait rajouter une raison, c'est que ça apporte « et-touham » à la personne. « Et-touham », c'est-à-dire les accusations et les soupçons. Si toi, demain, tu t'amuses à porter une amulette du Coran, en disant, bon, après tout, certains compagnons, ils l'ont autorisé. N'est-ce pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَةِ فَمَنْ اِجْتَنَبَ الشُّبُهَةِ فَقَدْ وَقَعَ فَقَدْ Voilà. مَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَةِ فَقَدْ اِسْتَبْرَعَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ Celui qui s'écarte des choses ambiguës, n'est-ce pas que c'est une chose ambiguë pour que les ulama, les sahaba divergent dessus? Il aura protégé sa religion et son honneur. Pourquoi son honneur? Imagine-toi que demain, tu te dises, bon, après tout, il y a une divergence, moi je vais mettre une amulette du Coran. Comment ils vont être les frères quand ils vont te voir avec un gris-gris autour du cou? Parce qu'ils sont pas censés savoir que c'est une amulette du Coran. Donc tu vas attirer sur toi une sorte de mauvais regard de la communauté musulmane et une certaine humiliation et certains soupçons. Et ça, c'est le musulman, il est demandé de s'écarter de ce genre d'actes. C'est-à-dire, le musulman, parfois, même s'il voit que certains actes sont permis, s'il vit dans une société où la plupart des gens ils voient ça comme étant honteux ou comme étant interdit, parce que son conjoint, eh bien, il doit s'en écarter pour protéger son honneur. Parce que s'il le fait, les gens ils vont commencer à parler sur lui comme étant une personne qui n'a pas d'honneur ou une personne qui commet tel ou tel acte. Et là, ça rentre dedans, ce genre d'amour. Donc après, il parle de al-halaqa, c'est-à-dire le fait de porter, par exemple, un bracelet, que ce soit en cuivre, en or ou en argent. Ou alors al-khayr, c'est-à-dire des genres de fils qui peuvent être avec du coton ou de la laine. Tout ça, en fait, ça rentre dans al-tama'im. Dans Kitab al-Tawhid, il en a fait un chapitre seul. Pourquoi dans Kitab al-Tawhid, il a séparé les deux chapitres? Alors qu'en vérité, al-halqa, c'est-à-dire le fait de porter un bracelet ou porter un fil, ça rentre dans les talismans. C'est la même chose. C'est porter quelque chose dont tu crois qu'il va te protéger. Mais pourquoi il a séparé les deux dans Kitab al-Tawhid? C'est parce que dans le chapitre de al-Tamima, les talismans, il y a la divergence à propos du Coran. Alors que dans le chapitre de porter un bracelet, porter un fil, là, il n'y a pas de divergence. Donc c'est pour ce détail-là qu'il a séparé les deux chapitres. Et là, ici, ils ont suivi son minhaj en différenciant les deux chapitres. Et ils ont cité un verset qui globalement interdit ce genre d'acte. « قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَةِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Le verset dit, voyez-vous ce que vous adorez en dehors d'Allah. Si Allah me veut un mal, est-ce qu'elles peuvent repousser son mal? Et s'il me veut une miséricorde, est-ce qu'elles peuvent retenir sa miséricorde? Donc ça, c'est vrai à la fois pour les tombes que les gens ils adorent, mais aussi pour les petits gris-gris que les gens ils portent. Est-ce que ce gris-gris, si Allah qui a créé les cieux et la terre, il te veut un bien, est-ce que ce gris-gris il peut retenir ce bien? Et si Allah, le créateur des cieux et de la terre, il te veut un mal, est-ce que ce petit gris-gris va repousser ce mal? Ça rentre dans le verset. Wa qala ta'ala qul id'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wa la tahwila. Dit invoquer ce que vous prétendez en dehors de lui, et ils ne détiennent pas le fait de faire disparaître le mal ni de le changer. Donc là ici Allah de façon globale renie que quoi que ce soit que les gens adorent en dehors d'Allah ou à quoi les gens s'accrochent ne détiennent le bien ou le mal ou le pouvoir de changer le mal. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme qui portait, c'est-à-dire comme un bracelet en cuivre. Et il lui a dit, pourquoi tu mets ça? Il a dit, c'est contre al-wahina, c'est-à-dire une maladie qui touche le bras. Et il lui a dit, écarte-la, jette-la, car elle ne te fera augmenter que wahan. Wahan, ça ressemble à al-wahina. Et à chaque fois, le prophète, il fait ce genre de phrase. L'autre lui dit, je mets ça contre al-wahina, et le prophète lui dit, eh ben, elle augmentera ton wahan. Wahan, c'est-à-dire l'humiliation, la tristesse et le malheur. Et il lui a dit, si tu mourais, alors que tu l'as porté, tu n'aurais jamais réussi. Ça, c'est dans le musnad de l'imam Ahmed. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Et حذيفة بن اليمان رضي الله عنه, le compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم, avait vu un homme qui portait un fil contre les piqûres de scorpions, les piqûres d'insectes, etc., ou de serpents. Et Hudhayfa, sans lui parler, il lui a enlevé, c'est-à-dire il l'a coupé, et il lui a lu le verset qui dit « La plupart des gens ne croient en Allah qu'en étant polythéistes, qu'en lui associant. » Le verset qu'on avait expliqué avant-hier, avec l'explication de Ibn Abbas et de Mujahid. Donc regardez, il lui a carrément appliqué ce verset qui parle du shirk akbar, il lui a appliqué à lui qui a fait une catégorie de shirk asghar, de shirk mineur. Donc le tafsil à ce sujet, comme je vous ai dit, c'est si, donc que ce soit pour les talismans, pour les bracelets, les fers à cheval, les pneus devant les terrasses, etc. Tout ça, si la personne pense que c'est une cause pour avoir la protection d'Allah, alors c'est du shirk asghar. C'est du polythéisme ou de l'associationnisme mineur. Quelqu'un, il pourrait me dire, à partir du moment où il sait que c'est Allah qui le protège, en quoi est-ce que c'est du shirk asghar? C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, il porte une amulette. Donc, il dit, cette amulette, je sais qu'elle ne me protège pas. Mais si je la mets, Allah me protège. Quelqu'un, il pourrait me dire, certes, il s'est trompé, c'est pas vrai, mais je vois pas en quoi il a associé à Allah. En quoi c'est du shirk asghar? C'est du shirk asghar dans le sens où il a inventé dans la réalité, c'est-à-dire il a déclaré que dans la réalité, il y avait quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, il a déclaré comme étant un sabab ce qui n'est pas un sabab. Donc il a parlé sur Allah en mensonge, sans science et avec des présomptions. Et son cœur, il s'est reposé sur une cause qui n'existe pas. Donc là, il a associé quelque part en Allah une association qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc je répète, il a dit cette chose, si je la mets, c'est une cause pour qu'Allah me protège. Or, dans la réalité, Allah n'a pas mis cette chose comme cause. Donc il a inventé une cause par laquelle Allah protège. Donc il a à la fois menti sur Allah, inventé sur Allah, pensé du mal sur Allah. Donc c'est une sorte de shirk mineur. Et aussi son cœur, il se sera reposé sur une chose qui n'existe pas, qui est vaine, qui est nulle. C'est-à-dire elle fait aucun sabab. Donc il a commis du shirk mineur. Mais si il croit que cette chose peut repousser le mal, et quand on dit repousser le mal, il faut bien comprendre que ça veut dire que la personne, elle croit que si Allah lui a destiné un mal, cette chose, elle va le repousser. Ou que si Allah l'a privé d'un bien, cette chose, elle va lui ramener. Donc c'est mettre quelque part quelqu'un qui gère l'univers avec Allah, qui est capable de repousser ce qu'Allah a destiné. Donc là, il a commis du shirk akbar, sans aucun doute. Après, il y a le chapitre sur at-tabarruk, le fait de chercher al-baraka. Donc chercher al-baraka, soit en touchant la chose, ou en restant à côté de la chose. Et là, le détail, il est de la même sorte. Al-baraka, ce que ça veut dire, al-baraka, c'est le khayr, c'est le bien. Le bien est le fait que le bien soit dans une chose et perdure dans cette chose. C'est-à-dire le bien, de façon générale. Donc, at-tabarruk, c'est chercher comme la chance, chercher le bien dans une chose, à partir d'une chose. Donc ça, on a le droit de le faire pour qui? Pour Allah Azzawajal, puisque c'est lui seul qui détient le bien et qui peut nous destiner le bien. Donc maintenant, une personne, elle viendrait à faire tabarruk avec autre qu'Allah. Donc elle va à la tombe du wali, elle dit, si je suis la tombe, ben je vais jamais être malade. Si je suis la tombe, je vais avoir de la chance. Ou alors, si je frotte certains vêtements, donc on ne citera pas, sur la tombe, je vais avoir des enfants, etc. Ou alors, si je touche la porte de la mosquée de la Mecque, je vais avoir de la chance, je vais avoir du bien. Donc là, il a cherché le khayr en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et bien, le détail, il est le même que pour les talismans. Parce que les talismans, si vous voulez, c'est plus une protection contre le mal. Et le tabarruk, c'est plus rechercher le bien. Donc, le tabarruk, ça va avoir le même détail que le talisman. S'il pense que cette chose, s'il la touche, c'est un moyen pour qu'Allah lui donne al-baraka, alors c'est quoi le statut? Shirk asghar, c'est du polythéisme mineur, pour les mêmes raisons qu'on a expliquées sur le talisman. Par contre, s'il pense que la porte ou le cercueil, il va lui ramener un bien de façon indépendante, istiqlalan, en dehors de la volonté d'Allah, et il peut lui ramener un bien que même Allah n'a pas destiné, alors là c'est du shirk akbar. Donc là, il cite le hadith de Abu Waqid al-Laythi, qui dit, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. Donc il dit Abu Waqid, nous sommes sortis avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم vers Hunayn, c'est-à-dire de la Mecque à Hunayn pour une bataille. Et nous étions nouvellement convertis à l'islam. Et les mushrikin avaient un arbre, un jujubier donc, auprès desquels Ya'koufoun a'indaha, c'est-à-dire il reste auprès de cet arbre. Quand on dit il reste, Ya'koufoun, c'est pas il reste pour discuter. Il reste en cherchant le bien de cet arbre et la baraka de cet arbre. Et ils accrochaient leurs arbres à cet arbre. Et ils l'appelaient Vata Anwat, c'est-à-dire celle qui a des choses accrochées. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. Après ils ont vu un jujubier, un autre, et ils ont dit au messager d'Allah, mets-nous un ذات أنواط comme eux ils en ont un. C'est-à-dire mets-nous un arbre auprès duquel on va rester et on va accrocher nos armes, on aura le baraka comme eux ils en ont un. Et le prophète a répliqué en disant الله أكبر, voici As-Sunan. Voici les traditions. Alaykum salam. Voici les habitudes. Quand il dit As-Sunan, le Alif Lam ici, il remplace un Mudaf Ilay. Pour ceux qui ont réussi à aller jusqu'au tome 2. Non, même pas, tome 1. Le Alif Lam ici, il remplace un Mudaf Ilay. Quand il dit les Sunan, ça veut dire les Sunan de quelqu'un en fait. Les Sunan de qui donc? Des peuples d'auparavant. Et il a dit Faqultum. والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لا تركبون سنن من كان قبلكم. Et il leur a dit, vous avez dit par celui dans la main de qui est mon âme, comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa, donnez-nous une divinité comme ils ont une divinité. C'est-à-dire quand ils ont vu le peuple adorer des divinités, ils ont dit à Moussa, donne-nous une divinité comme eux. Et c'est de là que, après, ils ont inventé un veau en or qu'ils se sont mis à adorer. Et Moussa leur a dit, vous êtes certes un peuple d'ignorants. Donc regardez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé leurs paroles. Et quand ils ont cherché le baraka, voulu un arbre qui donne le baraka, il a comparé ça aux enfants d'Israël quand ils ont voulu un ilah. Quand ils ont voulu une divinité en dehors d'Allah. Ce qui prouve que c'est du shirk. Et après, il leur a dit, vous allez certes suivre les voies de ceux d'auparavant. Ça, c'est dans Sunan at-Tirmidhi. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Normalement, donc, il parle encore après des actions. En fait, le livre, il a le même tartib à peu près que Kitab al-Tawhid. Donc, après, il parle du fait... qu'il est interdit, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de visiter les tombes, mais il a interdit de prier auprès des tombes. Et il a interdit de prendre les tombes, comme, et notamment les tombeaux des prophètes et des hommes pieux, comme un endroit où on prie, masjid, c'est-à-dire un endroit de prière. Et il a interdit aussi le fait d'élever les tombes, et d'écrire sur les tombes, et de s'asseoir auprès des tombes. Comme il a interdit de prier en direction des tombes. Donc là, je voulais en fait les titres des chapitres. Comme il a interdit de construire les lieux de prière sur les tombes. Je l'ai éteint, moi, je crois. Comme il a interdit de les prendre pour un Eid, quand il a dit « La tattakhidhu qabri Eidan ». Un Eid, c'est-à-dire un endroit où tu vas aller de façon répétée et religieusement. Comme il a interdit shaddur rihal, c'est-à-dire de faire ses bagages et de voyager en direction d'une tombe, puisqu'il a dit que ça c'était permis, c'est-à-dire le voyage religieux, la visite religieuse, elle est permis que vers 3 mosquées. Donc pas vers les tombes, et pas vers d'autres mosquées, donc encore moins vers les mausolées. Et après donc il y a sur at-tawassul, et ben vous pouvez revenir aux explications en français qui sont faites, qui sont sur le net, inshallah. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.